Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invitée ce soir à 18h20, elle va nous plonger dans les secrets du réseau de proxénétisme de Madame Claude. Elle avait 18 ans à l'époque, quand elle est devenue escort girl. Après des années d'études auprès des plus puissants, elle publie aujourd'hui Call Girl du Tout Paris, aux éditions du Nouveau Monde. Elle a choisi Europe 1 pour sa première interview, elle sera donc avec nous dans quelques instants. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Déconfinement, c'est parti, annonce le gouvernement. Mais est-ce vraiment le bon moment? On en parlera. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. Et 19h20, le Club des idées. Grand débat ce soir sur l'incroyable aventure Thomas Pesquet. Il s'envolera dans l'espace vendredi matin pour 6 mois. Alors quelle sera sa mission? À quoi ressemblera son quotidien? Et est-ce un nouveau départ en quelque sorte pour la conquête spatiale, vers Mars notamment? On en parlera avec nos invités et vos questions nombreuses également. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
À ce stade, l'épidémie recule 2 fois moins rapidement qu'en novembre. Ensuite, la pression hospitalière reste extrêmement forte et la situation reste très tendue, en particulier dans certaines régions.
D'un côté, les Français qui rêvent d'un retour à une vie normale. De l'autre, l'exécutif qui scrute les chiffres. On verra comment le gouvernement tente de concilier les deux.
En levant certaines restrictions début mai et en maintenant d'autres, peut-être même au-delà de la mi-mai d'ailleurs.
L'Inde doit-elle faire face à une vague brutale? Près de 300 000 cas et 2000 morts en 24 heures. La France instaure une quarantaine pour les Indiens qui arrivent sur le sol français.
Les Britanniques inquiets pour leur souveraine. La reine Elisabeth fête aujourd'hui ses 95 ans dans un contexte forcément particulier.
Les Américains célèbrent, eux, la victoire de la justice. Le policier Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd. On verra que ce drame aurait pu ne jamais être révélé au grand jour sans une jeune fille de 17 ans. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,74% à 6210 points.
Et puis la météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
C'est le soleil qui domine demain.
Oui, sur la moitié nord particulièrement, il va faire beau. Demain, dans le sud, nous avons encore quelques nuages qui restent tenaces. Côté température, le retour de gelée matinale sur certaines régions, mais dans l'après-midi, la douceur est de retour. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et alors que l'échéance de la mi-mai évoquée par Emmanuel Macron se rapproche, l'exécutif réfléchit donc à son calendrier en vue d'un retour à une vie plus normale.
Oui, nouveau conseil de défense sanitaire ce matin autour du président de la République. Alors Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement veut donc pouvoir alléger les restrictions, mais sans pour autant ouvrir toutes les vannes.
Exactement, parce que l'exécutif a appris qu'il fallait être très très prudent avec le Covid, mais la feuille de route tracée par le président fin mars reste la base de travail avec donc comme objectif réaffirmé la suppression de la limite de 10 km pour se déplacer à partir du 3 mai et les fameuses attestations. L'exécutif envisage aussi pour la mi-mai une première étape de réouverture concernant les commerces, certains terrasses et certains lieux de culture. Alors les mots sont importants, j'ai bien dit première étape, certains, certaines. Vous avez compris, on va rester sur du progressif car comme le reconnaît un conseiller à Matignon, on est très loin d'être en pleine dégringolade de l'épidémie. Et les allègements, quand il y en aura, eh bien, ne se feront pas forcément au même rythme partout. L'option d'un déconfinement territorialisé est sur la table, car la situation est très différente selon les départements. Seule certitude, quand il s'agira d'annoncer la levée des restrictions le moment venu, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui prendra la parole. L'objectif, c'est bien de tenir le calendrier grâce à la vaccination qui va dicter cite un conseiller un peu plus vite que prévu.
Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et vous nous le disiez, le gouvernement reste donc prudent. Il faut dire que la décrue est encore fragile et les chiffres préoccupants, comme l'a rappelé tout à l'heure le porte-parole Gabriel Attal.
Après une semaine de vacances et 2 semaines et demie de mesures supplémentaires de freinage, les premiers effets sont perceptibles. Le nombre de nouveaux cas détectés diminue, tout comme le taux d'incidence. Il y a aujourd'hui très légèrement moins de patients hospitalisés que la semaine dernière et le nombre de personnes en réanimation tend à se stabiliser. Il apparaît que nous pourrions être au pic ou proche de l'être. Ce sont des résultats positifs, des résultats encourageants, mais je veux le dire, des résultats encore insuffisants.
Anne Le Gall, ces chiffres qu'évoque Gabriel Attal incitent forcément le gouvernement à la plus grande prudence.
Exactement, car le fait d'être au pic ne signifie pas la décrue, et même si l'incidence, donc le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, baisse dans la plupart des grandes villes, et elle a reculé de 17% en deux semaines en moyenne en France, le problème c'est qu'à l'hôpital, on ne voit pas encore d'embellie, en raison du décalage de 10-15 jours entre les contaminations et l'aggravation des symptômes, une situation qui rend certains médecins très dubitatifs sur la levée des restrictions mi-mai. C'est le cas du professeur Dominique Rossi, président de la commission médicale de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Le nombre de malades qui entrent en réanimation augmente de jour en jour. Aujourd'hui, on est sur un plateau extrêmement haut depuis plusieurs mois et toutes les semaines, on se prend une ou deux marches supplémentaires. Je ne vois pas d'amélioration nette en réanimation avant 10-15 jours.
Et il n'y a pas qu'à Marseille, car au niveau national, le nombre de patients en réanimation reste à un niveau élevé. On en compte presque 6 000 actuellement. C'est plus que lors du pic de la deuxième vague. On compte aussi toujours plus de 350 décès quotidiens. Et le problème, c'est qu'avec la rentrée scolaire pour tout le monde le 3 mai, il est difficile d'anticiper la situation épidémique du 15 mai.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Vous l'évoquiez pour ce qui est des écoles. Le protocole de reprise sera précisé demain soir par Jean Castex et Jean-Michel Blanquer.
Une certitude donc, les écoles maternelles et primaires accueilleront bien les élèves dès lundi prochain en présentiel. On verra à 19h ce qui est mis en place pour éviter les bugs pour les collégiens et pour les lycéens qui, eux, étudieront encore à la maison jusqu'au 3 mai.
Le gouvernement qui mise plus que jamais, évidemment, sur l'accélération aussi de la campagne vaccinale.
Au lendemain du verdict de l'Agence européenne du médicament, qui juge son rapport bénéfice-risque favorable, malgré de rares cas de thrombose, Johnson & Johnson va reprendre les livraisons de son vaccin en Europe. En France, il devrait être administré à partir de samedi aux plus de 55 ans. On attend néanmoins encore le feu vert de la Haute Autorité de Santé.
Et pour lever les réticences autour du vaccin AstraZeneca, eh bien, le gouvernement envisage par ailleurs de faire appel à des personnalités pour une campagne de communication un peu particulière.
Oui, on y reviendra effectivement dans notre journal de 19h. La France qui se protège contre l'arrivée de nouveaux variants. Les passagers en provenance d'Inde seront par exemple soumis désormais à une quarantaine à leur arrivée à Paris. Un isolement obligatoire de 10 jours, comme pour ceux qui arrivent du Brésil, du Chili, d'Argentine ou d'Afrique du Sud.
Il faut dire que la situation en Inde est particulièrement préoccupante, Johanna Chabas.
Oui, avec près de 300 000 cas et plus de 2000 décès en 24 heures. La deuxième vague frappe le pays comme un ouragan, selon le Premier ministre. En à peine 2 mois, le nombre de malades a été multiplié par 20. Une hausse des contaminations due à un relâchement des mesures sanitaires. Les fêtes religieuses ont été autorisées et ont réuni près de 4 millions de personnes dans le nord du pays. Mais l'explosion des cas s'expliquerait surtout par la présence d'un nouveau variant, le B1.617, son surnom, le double mutant, car parmi ces nombreuses mutations, deux que l'on connaît déjà, présentes dans les variants californiens et brésiliens, le B1.617 serait très contagieux et pourrait déjouer les anticorps. Ce variant représente 11% des contaminations dans le pays. Le Premier ministre a donc demandé plus d'efforts à la population pour empêcher la propagation du virus, alors que les hôpitaux sont saturés et les stocks d'oxygène dangereusement bas. Depuis lundi soir, la capitale New Delhi est confinée pour une semaine et à partir du 1er mai, tous les adultes pourront se faire vacciner.
Merci beaucoup, Johanna Chabas. En Allemagne, les protestations s'amplifient contre l'adoption par le Bundestag d'un durcissement de la loi anti-Covid qui renforce notamment les pouvoirs de la chancelière en matière de lutte contre l'épidémie. Des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à proximité du Parlement. Il y a eu des incidents avec la police.
La reine Elisabeth II fête aujourd'hui ses 95 ans.
Oui, quelques jours après avoir enterré son époux, le prince Philippe, pas de grande cérémonie vu le contexte, pas de tir de canon. Les Britanniques s'inquiètent beaucoup pour leur souveraine. Elisabeth II qui a profité de cette journée particulière pour remercier ses sujets qui lui ont témoigné leur soutien depuis la mort de son mari. Reportage devant Buckingham Palace de notre correspondante Anaïs Cordoba.
Quelques jours après les funérailles du prince Philippe, l'image de la reine n'a pas quitté l'esprit des Britanniques. Alors en passant devant Buckingham Palace, Jane a le cœur serré comme de nombreux compatriotes aujourd'hui.
La reine est la matriarche de ce pays et du Commonwealth. C'est un moment tellement triste pour elle et pour nous aussi. On est une nation en deuil, ça m'émeut. Je lui souhaite juste bonheur et paix pour le temps qui lui reste.
L'âge avancé de la reine et le choc de la perte de son époux auront-ils un impact sur son règne ? C'est la question du moment qui divise les Britanniques.
Personnellement, je pense qu'elle pourrait abdiquer dans les 2 prochaines années. Ce serait une terrible perte, pas seulement pour les Britanniques et le Commonwealth, mais pour le monde entier.
C'est la femme la plus forte sur cette terre et elle va poursuivre dans son dévouement et son devoir, car c'est ce qu'aurait aussi voulu le prince Philippe.
Au palais, un autre anniversaire est déjà en préparation, celui des 70 ans de la reine sur le trône, le jubilé de platine qui aura lieu l'an prochain. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous à suivre dans quelques secondes. Elle avait 17 ans quand elle a filmé le calvaire de George Floyd. Sans cette jeune fille, le policier Derek Chauvin serait sans doute aujourd'hui un homme libre.
Et puis il y a 5 ans, nous étions nombreux, abasourdis par l'annonce de la disparition du chanteur Prince.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite du journal avec ce verdict historique hier soir aux États-Unis. Le policier Derek Chauvin reconnu coupable de la mort de George Floyd. Un autre verdict aurait été un déni de justice, dit aujourd'hui la haute commissaire de l'ONU.
On a entendu les cris de joie de la foule hier soir massée devant la cour de justice de Minneapolis. On va retrouver Sonia Dridi, qui est la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Parmi les protagonistes de cette affaire, il y a une jeune fille dont le nom n'est pas connu. Et pourtant, sans elle, Sonia, pourtant sans elle, cette affaire n'aurait sans doute jamais eu ce retentissement.
Oui, le monde devait voir ce que je voyais. C'est comme cela que Darnella Frazier a expliqué son geste. Et depuis l'annonce du verdict, beaucoup aux États-Unis lui rendent hommage. L'adolescente se promenait avec son petit cousin dans les rues de Minneapolis lorsqu'elle est tombée sur la violente arrestation de George Floyd. Elle a filmé la mort de cet Afro-Américain pendant près de 10 minutes, étouffée sous le genou de Derek Chauvin, puis a posté la vidéo sur ses réseaux sociaux. L'affaire s'est très vite embrasée. Lorsqu'elle a témoigné au procès de l'ancien policier il y a quelques semaines, elle a dit avoir vu un George Floyd terrifiée, avoir tout de suite pensé que ce dont elle était témoin n'était pas juste. Elle a déclaré qu'en regardant George Floyd, elle voyait son père, ses frères, ses cousins. Dans un article, le Washington Post a écrit « Elle a certainement changé le monde en filmant la scène ». Darnella, qui dit être encore traumatisée par le drame auquel elle a assisté, représente la nouvelle génération d'Afro-Américains pour qui les téléphones sont les nouvelles armes pour lutter contre les bavures policières. Sans elle, la version des faits des officiers n'aurait sûrement pas été contestée. Sur son site internet, le département de police avait écrit que Floyd avait résisté à l'arrestation et était décédé d'un incident médical.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Emmanuel Macron, on l'a appris aujourd'hui, assistera vendredi aux obsèques nationales de l'ancien président tchadien Idriss Déby, tué hier lors d'une opération militaire.
C'est son fils qui lui succède, Mahamat Idriss Déby, nommé président par intérim. L'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. En cyclisme, Julien Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne. Pour la troisième fois, il devance Roglic et Valverde.
Au fil des heures, le projet de Super League s'est dégonflé comme un vieux ballon.
Et oui, cette compétition rivale de la Ligue des Champions a perdu depuis hier soir la quasi-totalité de ses participants. Après les clubs britanniques, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan ont jeté l'éponge. La Juventus Turin, l'un des instigateurs, reconnaît cette fois que cette compétition a désormais peu de chances de voir le jour dans sa forme actuelle en tout cas.
Et puis c'était il y a 5 ans, le monde pleurait une star de la pop. Et quelle star, le chanteur Prince, mort à 57 ans. Europe 1 bousculait alors ses programmes pour annoncer la triste nouvelle.
Europe 1, il est 19h18, Nicolas Poincaré.
Le club de la presse reprend dans un instant, mais on apprend à l'instant la mort du chanteur Prince, de son vrai nom, Prince Roger Nelson, qui s'est éteint aux États-Unis à l'âge de 57 ans.
L'annonce de la mort de Prince sur Europe 1 par Nicolas Poincaré. Angèle Châtelier, Prince, une icône qui a inspiré de nombreux autres artistes.
Oui, à commencer par le boss, Bruce Springsteen, qui pour lui rendre hommage, chantait Purple Rain lors d'un concert à Brooklyn quelques jours après la mort de Prince. Purple Rain, Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. Et puis il y a Patti Smith sur When Doves Cry, voici sa version. Une version, on peut le dire, plus calme que l'original. Entre le début des années 80 et 2014, Prince a joué de nombreuses fois en France, dans de grandes salles comme Bercy ou au New Morning, le temple du jazz par exemple. Alors il s'adresse à toutes les générations. Ce qui explique donc que Billie Jean, 18 ans, la fille de M, se soit appropriée en français l'une de ses chansons pendant le confinement, avec son père à la guitare. Printemps est pourtant ma saison préférée. Et les hommages à Prince ne devraient pas s'arrêter. Selon le site officiel du chanteur, il y a encore tellement de titres et d'ébauches de chansons encore jamais dévoilées qu'un album par an pourrait sortir sur les 20 prochaines années.
Un album par an de Prince.
Je rêve d'aller à un concert de Prince.
Ah ben c'est trop tard.
Mon grand regret. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30. La météo avec Anissa Haddadi qui nous annonce, ma chère Anissa, une journée plus ensoleillée pour le Nord demain matin.
Oui, grâce à un anticyclone, Julien, un anticyclone qui est situé actuellement sur les îles Britanniques et qui apporte effectivement un très beau soleil dans un ciel complètement dégagé sur la moitié nord demain. Au sud de la Loire, là, le ciel est un petit peu plus variable avec, sur les Pyrénées, un ciel très couvert avec des averses orageuses en altitude, simplement. Et puis sur le Languedoc et le Roussillon, nous aurons là aussi un ciel plus couvert avec du vent marin. Sur le reste de la moitié sud, c'est partagé entre nuages et éclaircies. Côté température, le retour de quelques petites gelées sur la moitié nord et puis dans l'après-midi c'est stationnaire avec 13 degrés à Cherbourg, 15 à Lille, 19 pour Paris, 22 à Angoulême et Bordeaux et 23 pour Mont-de-Marsan.
C'est noté, merci Anissa, vous revenez nous voir tout à l'heure à 18h30 à évidemment après le rappel des titres.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes, le témoignage d'une ancienne call girl du Tout Paris. Elle avait 18 ans quand elle a été recrutée par Madame Claude. Elle raconte tout aujourd'hui dans un livre choc. Elle sera avec nous dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invitée à 18h18, elle était l'une des filles de Madame Claude qui tenait le plus grand réseau de prostitution de luxe dans les années 60 et puis 70 ensuite. Elle publie aujourd'hui Call Girl du Tout Paris aux éditions du Nouveau Monde. Bonsoir Patricia Hetman.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais et d'avoir choisi Europe 1 pour cette première interview. Alors dans ce livre, vous revenez sur cette époque où vous étiez une des filles donc, du réseau de Madame Claude, de son vrai nom Fernande Grudet. Oui. Vous aviez 18 ans. D'abord, quel genre de femme était-elle, Madame Claude?
Contrairement à tout ce qu'on a pu lire, écrire et dire sur elle, c'était quelqu'un de, comment dit-on, un petit peu rigide au niveau de l'organisation du travail qu'elle demandait.
Oui.
Mais par contre, elle pouvait être même très maternelle si le besoin s'en faisait sentir pour une fille, une autre, dans n'importe quel problème de la vie quotidienne, on pouvait toujours compter sur elle.
Je vous pose la question parce que dans le livre, on sent qu'il y a une grande complicité, une forme d'admiration aussi de votre part à son endroit.
Tout à fait, et j'ai eu avec elle des rapports très particuliers que n'ont pas eu toutes ces filles, hein. je dois vraiment le préciser.
Combien il y avait de filles dans ce réseau?
On était en moyenne, disons, l'équipe de chevaux de course, entre guillemets, c'était une vingtaine, 20, 25 peut-être. Et puis il y avait l'arrière-plan, c'est-à-dire celle qui venait que de temps en temps, qui était ou mariée, ou pas disponible, ou qui avait des motivations financières qui étaient moins... qui avait moins besoin d'argent, ou juste dans un but précis.
Voilà. Pardon de ce détail, mais ça coûtait cher à l'époque de s'offrir une femme, ou une jeune femme de Madame Claude?
C'était beaucoup plus abordable le tarif de base que ce qu'on a pu raconter, puisque les petits rendez-vous dont je parle dans le livre étaient à la base de 500 francs
500
de l'époque.
Francs.
Et puis après, c'était en fonction du temps qu'on passait, ou des dîners, ou des voyages, et c'est là-dessus, bien évidemment, que les tarifs grimpaient.
Alors, je crois que Madame Claude, elle ne parlait pas, elle, de prostitution, mais préférait parler d'échange de bons services.
Tout à fait.
Est-ce que c'est comme ça que vous aussi, vous viviez ce métier particulier que vous faisiez à l'époque?
On peut dire ça, oui, parce que moi, mon but, que je partageais avec elle d'ailleurs, c'est pour ça que ça a créé des liens entre elle et moi, c'était de rendre tout le monde heureux.
Oui.
Voilà. De faciliter la vie des garçons, qui ça leur évitait. Ils savaient qu'en ayant un rendez-vous avec une fille de chez Claude, ils allaient dans un endroit sécure, où ils étaient en sécurité, où ils allaient être reçus dans un cadre agréable par une fille avec qui ils pouvaient parler pratiquement de tout. Et la finalité, bien évidemment, était quand même malgré tout... Les quelques minutes qu'on passait à l'horizontale.
Oui, évidemment. Alors, votre destin est stupéfiant quand on lit le livre, parce que vous arrivez là-dedans un peu par hasard. Vous dépannez d'abord une femme qui est en panne avec sa moto. C'est une proche, d'ailleurs, de Madame Claude.
Tout
Elle
à fait.
Propose de vous recruter, ou en tout cas de nouer un lien particulier. Vous refusez, et vous allez la recroiser un peu par hasard à Saint-Tropez quelques mois plus tard.
Tout à fait.
Finalement, elle vous recrute. Vous hésitez, mais... Vous finissez par...
Je me suis fait un peu désirer, oui.
Vous changez de prénom, vous intégrez le réseau sous le nom de Florence A. On sent dans votre récit une forme de fierté. Vous dites des mots comme « c'est comme si je venais d'intégrer HEC ou l'ENA sans le bac ». Vous qualifiez même le réseau de Sciences Po du sexe.
Tout à fait.
Mais quand même, il y a une question qu'on se pose.
Oui.
Vous avez 18 ans, offrir votre corps comme ça aux hommes, comment est-ce qu'on vit ça?
Bah écoutez, déjà, je ne l'offrais pas. Je ne vendais pas mon corps, vous allez dire que le distinguo est peut-être un petit peu léger, mais je louais mon temps.
Oui.
Et c'était plus dans cet état. Bien sûr, le côté sexuel, évidemment, avait sa place dans l'histoire. Mais c'était quand même pas pour moi.
Mais c'était pas une contrainte, ça ne vous gênait
pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que de toute façon, à 18 ans, même en 75, il y avait quand même très peu de filles qui étaient encore vierges. Et plutôt que de donner son corps à quelqu'un qui le méritait pas, entre guillemets, voilà. Puis c'était aussi un moyen de vivre dans un contexte qui était très agréable.
Oui, parce que vous gagnez beaucoup d'argent, 55 000 francs par mois, soit à peu près 20 000 euros d'aujourd'hui. Vous aviez deux clients l'après-midi, dites-vous, dans votre appartement, puis des soirées, des dîners, des voyages. Tout se faisait par téléphone, ce qui était d'ailleurs une petite révolution à l'époque. D'où d'ailleurs le nom Call Girl.
Tout à fait.
On appelle Call Girl, évidemment, pour les femmes.
On nous commandait comme un bouquet de fleurs chez Interflora, par exemple.
Et parmi ces clients, il y avait évidemment des hommes célèbres, des hommes politiques, des héritiers, des grands patrons. Sur les hommes politiques, pardon de cette question un peu intrusive, mais y en a-t-il que vous avez rencontrés à l'époque qui sont toujours en fonction aujourd'hui ?
Non. Il y a quand même un certain nombre d'années que l'époque est révolue. Le temps passe et en fonction, non. Peut-être encore quelques-uns qui sont vivants, mais
il y a des
fonction.
Hommes qui vous ont marqué plus que d'autres.
Pardon ?
Il y a des hommes qui vous ont marqué plus que d'autres dans...
Ce n'étaient pas des hommes politiques, en tout cas, ceux qui m'ont marqué. J'ai eu une grande aventure amico-sentimentale ou sentimentalo-amicale avec Gianni Agnelli, le patron de chez Fiat.
J'allais y venir. Avec une anecdote, si vous me permettez de le raconter, Patricia Herzmann. Vous avez un lien avec lui.
Oui.
Il vous appelle, vous partez le rejoindre en Italie. Et vous partez avec lui quelques jours sans qu'il prévienne personne.
Tout à fait.
Et toute l'Italie croit alors qu'il a été victime d'un enlèvement. Vous ne savez rien.
C'était l'époque des Brigades Rouges, oui.
C'était l'époque des Brigades Rouges. Et à votre retour, toute la presse italienne était devant sa maison.
Ah, tout à fait.
Stupeur. Scandale.
Ah ben, tout le monde était mort d'inquiétude. Surtout que la manière dont il avait, entre guillemets, disparu n'était pas dans les... n'était pas faite à la manière de ce qu'auraient pu être les Brigades Rouges en cas d'enlèvement réel. Et personne ne s'est manifesté, bien évidemment. Nous, on était tous les deux en train de faire les fous dans les sous-bois, à se balader dans les champs et à faire des choses toutes simples qu'il n'avait pas le temps ni l'occasion de faire. A fortiori, il n'avait personne autour de lui avec qui il puisse partager ce genre de laisser-aller. C'est-à-dire lâcher prise, quoi. Et avec moi, il se sentait bien. Il me disait toujours, j'ai l'impression d'avoir 20 ans avec toi.
Et puis, il y a des gens à qui vous dites non. Alain Delon, par exemple, qui vous fait des avances. Un peu cru, d'ailleurs. Et vous avez dit non. Et vous écrivez, d'ailleurs, page 171, s'il m'avait proposé une brique, 10 000 francs à l'époque, pourquoi pas ? Mais alors, pas comme ça.
Mais pas de la façon dont il s'y est pris, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai raccompagné chez lui le soir et... Je raconte dans le livre cet épisode particulier où, comme il venait de perdre son chat le matin même, qui était tombé du sixième étage, il s'est, là aussi, là, avec moi, lâché prise. Chose qui ne lui arrivait pas si souvent. Il a été au-delà du personnage d'Alain Delon, il a été Alain lui-même. Quoi.
Oui. Est-ce que ce réseau de proxénétisme, même si je sais que vous n'aimez pas ce mot-là...
Non, mais c'est l'usage, je suis habituée.
Est-ce que ce réseau de Madame Claude était protégé par les politiques ?
Par les politiques, on va pas dire ça. Je pense que, effectivement, à l'époque, la fameuse brigade mondaine, devait lui faire un petit peu de pression pour essayer de savoir des choses.
Parce qu'on s'épanche sur l'oreiller, évidemment.
Oui, mais pas tant que ça. Enfin, tout dépend de l'interlocutrice, hein, tout dépend de la fille. Moi, j'ai jamais été missionnée pour faire parler quelqu'un. La seule chose qui ait pu m'arriver, c'est deux ou trois fois de faire partie d'un cadeau de bienvenue pour, mettons, un politique étranger, un chef d'État, ou... Vous voyez, voilà. C'était un petit peu, comme un présent, quoi. Mais c'était pas du tout... J'étais pas en mission pour arriver à pousser à la signature d'un contrat ou quelque chose de cet ordre.
Et puis, il y a l'histoire tragique de Véronique.
Ah, mon Dieu.
Votre meilleure amie, dans le milieu, elle aussi, elle est approchée par des Yéménites pour un voyage dans leur pays en Afrique. Elle vous propose de l'accompagner, mais vous arrivez en retard au rendez-vous et elle part avec une autre fille. Oui. Elle ne reviendra jamais.
Jamais.
Elle est morte là-bas. On retrouve les deux cadavres dans une voiture en plein désert. L'affaire va évidemment déchaîner la presse. Et ça, on sent que ça vous a profondément marqué.
Bah parce que son père m'a nommé substitut de sa famille, enfin de la famille. Et il se trouvait que j'avais, par bonheur à l'époque, quelques relations avec ce qu'on appelait des barbouzes ou des correspondants de guerre, des journalistes ou des mercenaires, etc. Et donc moi, j'étais tellement outrée du langage que le Quai d'Orsay m'a tenu à l'époque, que j'ai voulu un petit peu joue un rôle dans le fait de mener cette enquête autant que possible et d'en savoir le maximum, de façon dans le but ultime de punir les gens qui avaient fait ça, parce qu'on aurait pu savoir très facilement qui c'était.
Alors il y a évidemment plein d'autres choses dans le livre, j'invite chacun à le découvrir et à le lire. Ça s'appelle Cold Girl du Tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude, Patricia Herzmann, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Je voudrais simplement terminer par un petit mot. Vous avez eu la gentillesse de m'écrire quelques mots sur la première page du livre, et vous écrivez ceci. Retour sur ces années de liberté où tout était possible, histoire de remettre certaines pendules à l'heure.
Tout à fait.
Qu'est-ce
que ça
veut dire,
ça ? C'est au sujet de toutes les médisances que j'ai pu entendre ou lire sur Madame Claude, et également sur la réalité de ce qui s'est passé pour Véronique.
Mais c'était la liberté ces années-là ?
Ah oui, vraiment.
C'est comme ça que vous l'avez vécu ?
Ah mais complètement, et j'étais pas la seule dans ce cas à avoir cette impression sur la société de l'époque.
Ouais. D'ailleurs vous écrivez, l'année 75 est la plus belle de ma vie.
De tout, ouais, absolument.
Bien, merci infiniment Patricia Herzmann pour ces quelques moments passés ensemble, merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, le rappel des titres et les polémiques du jour avec le débat de grande voix. Déconfinement c'est parti, mais est-ce le bon timing ? On en parlera tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le rappel des titres à 18h30 avec Isabelle Millet.
Et cette info Europe 1 dans l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016, après le verdict rendu ce week-end dans le procès en appel. Trois des condamnés ont déposé un pourvoi en cassation. Il s'agit des trois jeunes hommes condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Quoi qu'il arrive, les acquittés restent acquittés et les condamnés ne verront pas leur peine aggravée. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin autour d'Emmanuel Macron. Au menu, la préparation du déconfinement, la restriction des déplacements dans un rayon de 10 km autour de chez soi pourrait être levé dès le lundi 3 mai. Pour le reste, pas encore beaucoup de détails. On en saura plus sans doute demain avec l'intervention de Jean Castex. Au lendemain du verdict de l'Agence européenne du médicament qui juge son rapport bénéfice-risque favorable, Johnson & Johnson va reprendre les livraisons de son vaccin en Europe. En France, il devrait être administré à partir de samedi aux plus de 55 ans. C'est ce que dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui laisse par ailleurs entendre qu'une campagne de com impliquant des personnalités populaires et des responsables publics pourrait être lancé pour encourager à la vaccination avec AstraZeneca. Face aux variants, les voyageurs en provenance d'Inde seront désormais soumis à une quarantaine à leur arrivée. Un isolement obligatoire de 10 jours comme pour le Brésil, le Chili, l'Argentine ou encore l'Afrique du Sud. Et puis Madame Macron se rendra bien après-demain aux obsèques du président tchadien Idriss Déby, mort au combat. Et c'est son fils Mahamat Idriss Déby qui lui succède.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. La météo avec Anissa Haddadi qui nous annonce quelques gelées matinales. Vous n'allez pas me faire encore le coup du grattage de pare-brise, hein, Anissa ?
Non, parce que ça sera léger. Il y aura peut-être une fine pellicule sur certains pare-brise. En tout cas, ça concerne les régions qui sont au nord de la Seine, comme la Normandie ou encore la Somme. Là, il y aura des petites gelées matinales, mais rien de très inquiétant. Et puis sur la moitié nord, demain, on aura ce petit vent d'est, de nord-est, qui va souffler, qu'on appelle aussi la bise. Voilà, il va souffler sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, jusqu'à 30 km/h, et puis en bord de Manche, jusqu'à 50 km/h. Mais dans l'ensemble, demain sera une belle journée printanière avec un soleil très généreux sur la moitié nord, plus de nuages sur les Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Les températures, 1 à 12 degrés le matin du nord au sud et jusqu'à 23 degrés hein, demain dans le sud-ouest. On aura 23 à Mont-de-Marsan par exemple, 14 à Aurillac, 19 à Paris et 20 pour Bordeaux.
Bien, merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors le gouvernement a donc donné le top départ du gouvernement, le top départ du déconfinement avec la fin des restrictions des 10 km à partir du 3 mai. Et pour le reste, on en sera sans doute plus demain, effectivement, avec la conférence de presse de Jean Castex. Isabelle en parlait à l'instant. On suivra ça évidemment en direct sur Europe 1. Alors, ça se précise aujourd'hui pour la réouverture des terrasses aussi, des musées, des cinémas. On écoute Gabriel Attal ce matin à la sortie du Conseil des ministres.
Il apparaît que nous pourrions être au pic ou proche de l'être. Ce sont des résultats positifs, des résultats encourageants, mais je veux le dire, des résultats encore insuffisants. C'est notamment le fait du variant anglais. La pression hospitalière reste extrêmement forte. La situation reste très tendue, en particulier dans certaines régions.
Voilà, Pascal Perrineau, on est vraiment dans le en même temps sanitaire. D'un côté, on déconfine le 3 mai, c'est-à-dire dans 10 jours. Et pourtant, dans le même temps, les chiffres de contamination, on le répète, baissent peu. Et on nous dit même que la décrue sera plus lente qu'au printemps dernier. Là encore, c'est un pari que prend le président de la République.
Tout à fait. C'est à nouveau un pari qu'il prend. Un pari difficile parce que
Si l'on compare la sortie du confinement d'il y a un an, on était objectivement dans de bien meilleures conditions.
Oui.
Donc, le pari est un pari tout de même difficile. Est-ce que les indicateurs sont au vert, à l'orange? Certains restent encore au rouge. On vient de parler de la pression sur le système hospitalier. Quel type
6000 réanimations quand même. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le printemps dernier, il y a un an.
Voilà. Hein. Donc il faut que, j'allais dire, tout le reste de la machine marche.
Ouais.
Et en particulier, la montée en puissance est rapide des vaccinations. D'autre part, on sait qu'une période de sortie de confinement est une période dangereuse. Souvenons-nous, là aussi, il y a un an. Ça s'était mal passé et ça s'était fini par le divorce entre le président de la République et son premier ministre d'alors, Édouard Philippe.
C'est la question que j'allais vous poser, Michel Cotta. Est-ce qu'on est en train de reproduire les mêmes erreurs que par le passé? Parce que les médecins, les spécialistes, eux disent « Attention, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas le rater ce déconfinement et là, on va peut-être un peu vite. »
Oui, d'abord, il y a encore 3 semaines hein, quand même. Et les chiffres, les premiers chiffres sont effectivement,
enfin, 3 semaines,
dire,
l'école reprend lundi.
Après le 15 mai, en tout cas, mettons 3 semaines. Bon, moi, je trouve qu'effectivement, les chiffres sont assez hauts encore, mais je suppose que c'est des chiffres des gens qui y sont déjà plus que ceux qui vont y rentrer, puisque ça, c'est un chiffre qui diminue beaucoup. Le R0 diminue aussi. Bon, c'est un pari, mais moi, je trouve que c'est très difficile, hein, parce que le premier confinement, on en était sortis trop vite et sans en tenir aucune leçon. La preuve, c'est que ça a repris. Peut-être qu'il vaut mieux en sortir plus lentement en tenant les leçons et en étant prêt à rebondir. Et il y a le vaccin, quand même.
Il y a le vaccin. Mais il y a quand même 32 304 contaminations par jour. Alors, c'est vrai que ça représente
une baisse la semaine dernière.
De 15% sur une semaine, mais évidemment, ça reste très, très élevé. Et on est loin, souvenez-vous, de l'objectif des 5 000 contaminations jour que s'était fixé le gouvernement au moment de Noël. Quelques précisions, quand même, parce qu'il y a encore des hésitations sur les dates de réouverture des terrasses. Certains prônent, par exemple, de laisser passer le week-end de l'Ascension, et donc on pourrait s'orienter plutôt vers la date du 17 mai. Puis il y a la question du couvre-feu, qui est également sur la table. Certains plaident pour une petite heure supplémentaire, c'est-à-dire un couvre-feu qui poursuivrait, mais à 20h. D'autres disent 23h. Franck De Dieu, est-ce que c'est l'enjeu économique qui a primé sur cette volonté du chef de l'État de tenir sa promesse coûte que coûte?
Exactement, parce qu'on n'est pas dans la même configuration que l'année dernière. L'année dernière, effectivement, il y a eu ce déconfinement, mais l'état d'esprit de l'opinion publique était finalement, dans le curseur, dans le choix sanitaire contre économie, on choisit plutôt sanitaire. En gros, il y avait une sorte de dichotomie un peu facile, un peu commode entre les méchants qui, en gros, pensaient à l'économie, Bolsonaro, Trump, et les gentils, les Européens, qui mettaient en avant le sanitaire.
Oui.
Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, l'opinion publique se dit, mais, au fond, un peu à l'image d'Emmanuel Macron, elle est partagée, vous avez parlé de « en même temps sanitaire », elle est partagée entre, finalement, cet impératif sanitaire, et bien sûr, on pourra parler du vaccin, et puis, tout de même, l'économie, qui aussi est une autre faucheuse, et qui, de semaine en semaine, produit des effets économiques, bien sûr, mais des effets sanitaires sur la santé mentale.
Ouais.
Juste un petit mot pour terminer, et puis pour faire un petit peu le contrepoint de ce que j'ai dit, en se disant finalement, l'économique reprend un peu le dessus, parce qu'il a une dimension sanitaire, c'est qu'il y a un précédent. Il y a un précédent qui est le Chili. Le Chili, ils ont vacciné 37% de la population, on est à 20. On est entre le Chili, on n'est pas loin du Chili, ils étaient à 37%.
On est à 14 millions de personnes première dose.
Voilà, donc on est quand même encore loin. 37%, ils ont décidé de déconfiner, d'ouvrir les vannes largement. Eh bien, il y a eu une flambée tout de même du Covid.
Ouais, et puis il y a l'histoire du variant brésilien et sud-africain. Aujourd'hui, il est mineur, 4%, mais quand même, hein, on sait que c'est exponentiel. Donc ça aussi, c'est un danger. Michel Cotta.
Moi, je dirais que le pari est plus psychologique qu'économique, parce que c'est plutôt, c'est vrai, cette espèce de torpeur qui s'envahit et qui s'empare du pays. C'est ça, à mon avis, qui explique. Maintenant, vous avez raison, s'il y a une reflambée, là, pour le coup...
Bon, réponse demain 18h, on aura des précisions sur cette annonce.
Plus tard, après, pour savoir comment ça se passe.
Et puis le président de la République devrait s'exprimer d'ici à la première semaine de mai. On marque une première pause, on se retrouve dans un instant, on parlera de la polémique. Xavier Bertrand, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec toujours la suite des Grandes Voix du mercredi, Michel Cotta, le politologue Pascal Perrineau et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors, on parle de la polémique qui n'en finit plus. Xavier Bertrand et sa proposition choc après l'acquittement de certains jeunes dans le procès de Viry Châtillon. C'était hier, à notre micro, il proposait ceci.
On s'attaque à un policier, à un gendarme, à un pompier ou à un maire, il y aura une peine de prison automatique. Automatique minimum d'un an, non aménageable. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre se disent qu'il y aura quoi ? Un rappel à la loi ? Oui. Prenez notamment ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement.
Voilà, sauf qu'il a parlé un peu vite. Xavier Bertrand, tollé dans la majorité. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, lui a répondu très sèchement. Idem à gauche et même au Rassemblement National où on juge que c'est une idée, je cite, de cancre. Et ce matin, sur notre antenne, le grand pénaliste Hervé Temim en a remis une couche.
Ce serait une régression absolument catastrophique. Ce serait s'attaquer à l'un des principes les meilleurs de notre justice pénale. On peut considérer aussi, je raisonne par l'absurde, que le doute doit bénéficier à l'accusation. On pourrait considérer qu'en présence d'un doute, on doit condamner. C'est absurde.
Alors, évidemment, Xavier Bertrand a fait une petite mise au point, c'est le moins qu'on l'on puisse dire par la suite, en précisant que ces peines automatiques s'appliqueraient à l'issue d'un procès équitable et si l'intéressé est jugé coupable. Votre interprétation, Pascal Perrineau, c'est un coup de com' raté ?
Voilà, c'est un coup de com' raté. Certainement, Xavier Bertrand a été un peu vite, peu vite en besogne. Ses propos ont peut-être dépassé sa pensée, sachant qu'au fond, l'enjeu de la sécurité est en train de rendre tout le monde extrêmement nerveux. Oui. Parce que c'est un enjeu énorme.
Mais là, c'est la course à l'échalote un peu. Parce que,
oui, oui. Mais si vous voulez,
il a réussi à fédérer contre lui et les socialistes, non, et la majorité, et le Rassemblement National, oui, qui n'est pas avare de propositions sur la sécurité.
Et face à lui en Hauts-de-France. Et donc, ça explique un peu la vivacité, en particulier de Sébastien Chenu, qui emmène la liste du Rassemblement National dans les Hauts-de-France. Hein. C'est tout, sauf Bertrand.
Mais il a parlé trop vite.
Voilà. Il a parlé certainement trop vite. D'ailleurs, la rectification qu'il donne après, en effet, si elle avait été dès le départ, ça aurait été beaucoup mieux.
Mais
et beaucoup
c'est un nom, ça, Pascal Perrineau. Ça s'appelle une peine planchée.
C'est ça.
Nicolas
c'est
Sarkozy
la peine
avait déjà avancé.
C'est la peine
il aurait pu le dire comme ça, ça aurait été plus simple.
C'est la peine planchée, ça aurait été beaucoup plus simple, mais on est d'effet d'annonce en effet d'annonce.
Oui.
Le pouvoir a fait des effets d'annonce sur la sécurité, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un enjeu décisif pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est la capacité ou non d'un candidat de droite, en l'occurrence Xavier Bertrand ou un autre, de récupérer l'électorat de droite qui a été séduit par Macron pour partie sur des enjeux socio-économiques, sur des enjeux sanitaires, il n'y a pas de différence parce que beaucoup d'électeurs de droite se disent « mais un leader de droite n'aurait pas mieux fait que le président Macron ». En revanche, sur la sécurité, toutes les enquêtes le montrent.
Oui.
La droite a une crédibilité beaucoup plus forte qu'Emmanuel Macron, qui là-dessus est sanctionné très sévèrement par l'opinion publique française. Trois quarts des Français considèrent que la lutte d'Emmanuel Macron contre la délinquance est un échec.
Voilà, c'est un petit boulet au pied qu'il s'est mis là, Xavier Bertrand, Michel Cotta.
Je crois qu'il a dit quand même, même s'il allait très vite, il a dit qu'il faudra changer la loi.
Ouais,
donc il
n'a
quand même pas considéré qu'on pouvait prendre n'importe qui par le col et l'amener immédiatement en prison. Bon, et puis sa rectification, voilà, ça fait partie des propos qu'on dit pour gagner l'opinion publique et qui vous échappent et qui vont trop vite. Voilà.
Oui. Mais la
ça,
crédibilité des propositions dans une course présidentielle, quand
c'est
on
important.
Veut être crédible,
d'autant
c'est important.
Qu'il aurait dit qu'il faut que chacun soit passe en comparution immédiate et soit immédiatement soumis à une peine planchée. Bon, ben ça se discutait.
Parce qu'on entend un peu la même chose à chaque élection présidentielle, hein, la course aux mesures sécuritaires les plus fortes, les plus chocs.
Ouais,
les Français sont habitués à ça.
Ils sont habitués, mais je crois que là, Emmanuel Macron, qui effectivement avait du retard de ce point de vue-là, a maintenant de l'avance, et notamment sur tout ce qui concerne la drogue. Alors je comprends que c'est à la base des affrontements qu'on voit avec les policiers. Il reste que notre temps, aujourd'hui, demander une consultation sur la pénibilité et sur les effets de la drogue, ça nous ramène aux années 70. Quoi.
Oui, Franck de Dieu.
C'est un coup de com' raté, ça, effectivement, il faut l'admettre. Est-ce que c'est un coup de pol raté ? Est-ce que c'est un coup politique raté ? Ce qu'il essaye de faire, en gros, la semaine dernière, c'était en gros de jouer la droite libéral. Hein. Il a dit « je veux baisser l'impôt de production, je vais aussi baisser les dépenses publiques. Avec moi, il n'y aura pas d'augmentation des déficits ni de dettes. » Il voulait rassurer un peu la droite libérale. J'ai à ma gauche un politologue, il parlerait de droite orléaniste. Et puis, cette semaine, il est dans la deuxième partie de sa droite, quelque part. Il est à vouloir rassurer la droite plus dure. Et il est effectivement sur le terrain de la sécurité, très maladroitement, mais au fond, on le commente. On commente même parfois la polémique à l'intérieur de la polémique avec le garde des Sceaux qui fait une sortie. Pardon, mais il reste une troisième droite qui est supposément être la sienne au départ. Oui. C'est la droite sociale.
Oui.
Et là,
la droite chiracienne.
Ben, il n'y a rien qui sort. Ou la droite, ou le gaullisme social, etc. Il n'y a rien qui sort. Il a un programme économique libéral à contre-courant de ce qui se passe aux États-Unis et même en Angleterre, Boris Johnson. Et puis là, effectivement, ben, il chasse classiquement. C'est une figure qu'on connaît.
Intéressant. Quelle est la colonne vertébrale idéologique de Xavier Bertrand, Pascal Perrineau ?
Quand on regarde sa carrière, c'est plutôt, en effet, cette droite sociale. Xavier Bertrand n'a pas été sur des créneaux d'une droite ultralibérale.
Oui.
Il n'a pas été sur des créneaux d'une droite
identitaire.
Il est plutôt, en effet, dans cette mouvance qu'on pourrait appeler la droite sociale. Mais vous savez, il est aussi dans un système, comme dit le président du Sénat, de départage à droite.
Oui. Hein ?
Et comme il a décidé de se lancer le premier dans la course, c'est les sondages qui vont faire le succès ou l'échec de Xavier Bertrand.
Mais vous qui avez le nez, pardon de le dire comme ça, mais sur les sondages et sur l'opinion publique, ça fonctionne encore cette stratégie d'aller grappiller à droite, d'aller grappiller un peu au centre, un peu à la gauche quand même, avec des propositions sociales, ça fonctionne encore ça ?
Écoutez, oui, parce qu'il y a un électorat de droite en déshérence, en France. Oui. Il y a un électorat de droite qui ne sait pas, pour l'instant, à quel saint, ou plutôt à quel candidat, se vouer.
Oui. Hein,
et qui est encore important. Il faut savoir que la droite, en France, c'est un électorat important. Hein. François Fillon, en dépit de toutes ses avanies, avait fait 20%, il faut s'en souvenir.
Oui,
donc c'est
vrai.
Quelque chose de solide.
Michel Cotard.
Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste quand même à des trucs ahurissants. Effectivement, on assiste à ce programme qui est plutôt un programme libéral classique. Et en même temps, on entend Guillaume Pelletier dire « Moi, je sais ce que je ferai le lendemain, j'augmente tous les salaires ». De 20%. Alors, on a l'impression quand même que c'est le même corpus de droite.
Guillaume Pelletier, il a fait le chemin inverse.
Oui,
hein. Il était plutôt à la droite identitaire,
drôle,
puis il est revenu sur la droite au centre.
C'est ce que je voulais. Ouais. Il était vraiment à la droite de la droite. Et là, d'un coup, il nous fait le coup de l'augmentation de salaire qui laisse même Marine Le Pen pantoise. Et je crois que, effectivement, le Rassemblement National a eu deux raisons cette semaine de rester suffoqué. C'est un, effectivement, les déclarations de Bertrand qui va beaucoup plus loin que celles de Marine Le Pen.
Oui.
Et deux, les déclarations de Guillaume Pelletier qui, alors là...
Qui veut supprimer les cotisations sociales sur les feuilles de salaire.
Oui, mais ça, Guillaume Pelletier, c'est vraiment rasé gratis, quoi.
Bien. On marque une pause, 18h49. On parlera du Tchad dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite des Grandes Voix du mercredi, Michel Cotta toujours à mes côtés, le politologue Pascal Perrineau et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors je voudrais qu'on dise un mot d'Emmanuel Macron qui annonce se rendre au Tchad ce vendredi pour les obsèques du président Idriss Déby, tué lundi dernier, des suites de blessures après des combats face à des rebelles. Alors Idriss Déby, c'est un allié important dans la guerre évidemment contre les djihadistes au Sahel et notamment au Mali. Mais Idriss Déby, c'est aussi 30 ans de pouvoir avec peu de partage. D'ailleurs c'est son fils qui a immédiatement pris la relève avec les pleins pouvoirs. Est-ce que c'est la place d'un président de la République française d'aller saluer la mémoire d'un allié certes, mais quand même aussi d'un despote ?
Dans le cas d'Idriss Déby,
Michel
moi
Cotard.
Je le comprends, parce que c'était son seul soutien, au fond, dès le début de l'opération, c'était le seul soutien de François Hollande,
l'opération
et puis après
Serval,
son seul soutien dans l'opération Barkhane. Je le comprends. Alors maintenant qu'on ne trouve pas une démocratie formidable au Mali, oui, on est d'accord. Au Tchad.
Au Mali aussi.
Ça fonctionnait plutôt bien avant.
En plus, ceci étant, moi je
ne
connais pas tellement de chefs d'État africains qui sont morts au combat. Hein.
Ouais.
Ça donne au personnage une autre dimension quand même.
Peut-être à Saint-Louis, en France.
Attendez, juste pour resituer les choses pour nos auditeurs qui peut-être suivent ça de loin. Idriss Déby, c'est 30 ans de pouvoir, élevé au rang de maréchal en août dernier, qui n'hésite pas, on le sait quand même, à museler l'opposition, qui exerce un pouvoir sans partage. 17 premiers ministres se sont succédés entre 1991 et 2018 avant qu'il ne fasse supprimer cette fonction pour s'octroyer les pleins pouvoirs.
Leur prédécesseur en fait pareil. Hein.
Non, mais on est dans un système de contradictions dans lequel la France...
Je pose la question parce qu'on avait dit la France-Afrique, c'est fini.
France-Afrique.
Mais oui, mais ça n'est jamais complètement fini. ça n'est jamais complètement fini, ça mute. Voilà, c'est tout changé pour que rien ne change. C'est souvent, vous savez, les effets d'annonce sur le rôle de la France en Afrique. Mais surtout, le président, comme d'autres présidents, est pris dans un système de contradictions entre la France intervenant et intervenant au premier chef sur le terrain malien, tchadien, oui. Avec un allié tchadien qui a beaucoup donné, qui a payé le prix du sang, oui. Qui est certainement l'armée africaine la plus efficace hein, sur oui. le terrain, et qui donc a aidé et aide la France. Et puis, un président qui, on le voit bien sur le terrain algérien, et de temps en temps,
précisons
tenter...
Précisons d'ailleurs qu'il y a une base militaire historique, hein, d'où part l'opération Barkhane, qui est
tout
située au Tchad.
Et un président qui, d'autre part, est tenté parfois de revisiter assez fondamentalement le rapport de la France à ses anciennes colonies. Et de temps en temps, il se prend les pieds dans le tapis. Parce que là, pour l'instant, il donne l'impression d'être beaucoup plus sensible à Idriss Déby et à la succession, en effet, qui pose légèrement problème, qui est une succession de type royal, presque. Et puis, l'opposition tchadienne, qui, toutes tendances confondues, hein, réclame que la transition se fasse devant le peuple,
oui, de façon démocratique.
Par le recours à des élections. Donc là, on voit que, bon, pour l'instant, Macron choisit le premier chemin. voilà, et puis on verra, peut-être dans 15 jours, il explorera le second.
Franck de Dieu.
Oui, d'un mot, il est en situation techniquement, militairement, de demandeur, en l'occurrence. C'est-à-dire que le Tchad a joué le jeu Barkhane à la fois comme base de commandement, et puis effectivement, dans le G5 Sahel, ce sont des militaires, il paraît, très valeureux,
oui.
Plus valeureux probablement que tous les autres, et effectivement, ben, il est dans une situation de demandeur. Il a besoin, quelque part, la France est malheureusement esselée, a besoin de cette force tchadienne.
Mais putain, est-ce que ça... On dit rebelles quand même, mais c'est des islamistes. Hein,
oui,
aussi.
Oui.
C'est
pas les rebelles l'opposition.
Oui, c'est pas les mêmes, d'accord.
Il y a aussi une opposition démocratique à l'intérieur du Tchad.
Mais généralement, on sait que les frontières sont poreuses entre les deux, malheureusement. Hein,
Oui, mais il y a des opposants démocratiques quand même au Tchad. Non, mais le fait d'aller quand même à ces obsèques, est-ce que ça légitime pas d'une certaine manière la prise de pouvoir aussi du fils Pascal
Perrineau ? D'une certaine manière, oui. Mais vous savez aussi, il y va pas simplement pour des raisons internationales sur lesquelles nous sommes intervenus, mais pour des raisons nationales. On a un président qui est dans les starting blocks pour sortir absolument de la phase sanitaire qui s'éternise de son quinquennat et d'exister enfin en tant que candidat. Et là, Macron, chef de guerre d'une certaine manière, ou aux côtés d'un grand chef de guerre, voilà, en termes d'image, d'impact, de repositionnement sur la scène internationale, d'Emmanuel Macron, oui. C'est important.
Bien, on suivra ça ensemble parce que ce sera évidemment une image très très forte et ce sera donc vendredi. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du
Merci
mercredi.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, restez avec nous dans quelques secondes. Le journal avec Isabelle Millet, évidemment. Et puis nous, on se retrouve avec le Club des Idées. Grand débat ce soir sur l'incroyable mission de Thomas Pesquet. Avec toutes les questions que vous vous posez, on va y répondre. Vous allez voir de façon très concrète. À tout de suite.